Bon, ben bonjour.
Madame Gaston Bide. Je vous en prie, madame. D'accord.
Bon, je compte aussi sur vos questions pour participer. Voilà, donc je me présente un petit peu plus. Je suis psychanalyste dans la région lilloise. Et j'ai travaillé pendant, je travaille encore depuis 20 ou 25 ans dans une maison d'enfants où apparaissent, enfin viennent les enfants qu'on a retirés à leur famille et qui sont donc dans un foyer. C'est à partir, enfin si je suis ici, c'est parce que j'ai écrit un livre. Et ce livre, en fait, je l'ai écrit parce que j'ai été poussée vraiment à le faire. Je ne suis pas du tout écrivain, ni théoricienne, ni chercheuse. Je l'ai écrit parce que j'ai été vraiment poussée par un certain nombre de psychothérapies d'enfants qui posaient une question dont je n'avais pas les réponses, pas les clés. Et ça a été quelque chose d'assez bouleversant. Donc, je vous brosse un petit peu le tableau. Nous étions une équipe de quatre à cette époque-là. Quatre psychologues, psychothérapeutes, un psychiatre. Et nous disposions d'un espace dans l'institution qui était un espace un peu à l'écart du lieu de vie des enfants. Ça, c'est une chose très importante quand on espère avoir une écoute un peu analytique, enfin une écoute, oui, analytique, puisque ma formation et mon écoute habituelle, c'est à partir des textes de Freud, de Lacan surtout. Donc, c'était important d'avoir cet espace séparé du lieu de vie et où il ne se passait rien d'autre que de la psychothérapie réservée. Donc, les enfants ont vite compris que cet espace était pour eux et qu'ils pouvaient effectivement là s'exprimer comme ils le voulaient, qu'ils seraient entendus, évidemment. À partir de cet espace très particulier, nous n'établissions aucun compte-rendu, aucun rapport qui aurait pu interférer sur leur destin. Être placé, être rendu à la famille, être confié à des assistantes maternelles, par exemple. Nous n'interférions absolument pas. Ce qui ne nous empêchait pas, nous empêche pas d'aller parler avec les éducateurs pour quelquefois débrouiller, ou avec les parents, avec les référents sociaux, mais de vive voix, pas du tout sur des rapports écrits qui essayeraient de brosser un tableau de l'enfant. Donc ça, c'était très important. Et parallèlement à ça, donc il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, la question qu'on voyait dans tous les journaux, c'était les violences, la violence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces articles qui sont sortis sur la violence, comment faire, etc. Et nous avions un certain nombre d'enfants violents à l'époque. Donc la question, c'était qu'est-ce que c'est que cette violence dont on ne sait absolument rien, qui s'exerce brutalement, subitement, planter une fourchette dans la main de la petite sœur, casser des abribus, tout ce qui peut être en verre, d'ailleurs les vitres de l'institution en avaient pris pas mal de coups, détruire la voiture d'un des éducateurs. Bon, la question c'était, mais qu'est-ce que c'est que cette violence ? Comme nous n'avions pas de réponse, nous avons donc reçu ces enfants, un par un, et au fond, ben, on attendait un petit peu que ce soit eux qui nous disent, qui nous expliquent en fait, hein, ce qu'ils avaient dans leur construction psychique, ce qui pouvait les amener à de tels actes. Et bon, là je vais parler d'un enfant en particulier parce que c'est plus explicite. Un enfant que j'ai appelé Joyce pour les besoins de la publication. Et donc, au début des premières psychothérapies, quand je l'ai reçue, il regardait, il attendait d'abord quelque chose de moi, mais évidemment, je lui proposais le matériel dont nous disposons, c'est-à-dire des marionnettes, la pâte à modeler, enfin, tout ce qui est d'habitude dans un... Et rien ne l'intéressait. Il tournait en rond... Rien ne l'intéressait et brutalement, il jetait tout par terre. 10 ans. Il avait 10 ans hein, quand je l'ai reçu la première fois. C'était un garçon très petit qui avait un diagnostic de nanisme affectif, très fluet, assez blanc de visage et bon, dont on voyait bien dans son histoire familiale qu'il était... désiré vraiment par personne, ni son père ni sa mère n'étaient très 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 chaleureux avec lui, ni enclin à l'accueillir. Il était en revanche objet de disputes entre eux qui étaient séparés, chacun voulant l'avoir chez lui, mais pas pour des échanges affectueux ou affectifs avec lui, c'était pour l'avoir, quoi. Donc, ces premières séances ont bien été de jeter, de casser, ou alors de se mettre à essayer de me séduire, me montrant qu'il connaissait parfaitement bien le fonctionnement affectif et sexuel d'une femme, d'ailleurs. C'est un enfant qui était dans un climat incestueux chez lui et sa grande sœur, peut-être même sa mère, avait avec lui des échanges de ce type. Donc c'était un des modes d'entrer en relation qu'il connaissait et qu'il a donc essayé, évidemment sans succès, auprès de moi. Donc je le renvoyais ainsi à son expression de violence. Et puis, à un moment, il a commencé à s'attaquer non plus aux objets, mais à moi. À ce moment-là, je lui ai proposé un costume. Tout au moins, il m'a dit « Non, toi, tu prends ça. » Il m'a donné un masque de monstre. Et on a commencé un simulacre de bataille. Et donc, c'était bataille avec le monstre. Et alors, ce qui était assez étonnant, c'est que à la fin de chaque séance, il s'approchait de la rampe de l'escalier, il l'enjambait et il faisait mine de se jeter en bas. Il y a quand même 2 étages. C'était une autre énigme. Je me disais, mais comment se fait-il que le vide l'attire comme ça? Est-ce qu'il mime un suicide? C'est ce que j'avais pensé tout de suite. Est-ce que c'est autre chose? Bon. J'ai laissé en suspens, comme les autres questions. Au fond, tant qu'une question reste ouverte, je pense qu'elle travaille. Pour autant qu'on ait la conviction intime qu'elle va mener quelque part. Donc, au bout d'un certain nombre de séances, il a commencé à être vis-à-vis de moi plus agressif, c'est-à-dire qu'il est sorti du semblant et qu'il a vraiment voulu me perforer l'estomac, je vais dire ça comme ça. Et donc à ce moment-là, comme j'étais quand même, j'avais quand même envie de me protéger, j'ai pris un carton qui traînait par là, je l'ai mis devant moi et je lui ai dit « Bon, vas-y, si tu veux frapper, tu frappes. » Et à ce moment-là, il a été comme fasciné par les trous qu'il faisait dans le carton. Au point que, après, il passait une grande partie de ses séances de psychothérapie à réclamer des cartons qu'il ne cessait de trouer avec c'était un manche à balai cassé, et avec une violence extraordinaire, jusqu'à ce que du carton, il ne reste plus rien. D'ailleurs, quelquefois, il m'en demandait un deuxième. Bon, c'était quand même aussi toujours encore quelque chose dont j'avais absolument pas la clé et la réponse. Qu'est-ce que c'était que cette violence-là, quoi ? Et bon, il y avait toujours l'attirance du vide, J'aimais pas du tout ces fins de séance parce que j'avais quand même peur qu'ils se lâchent dans le vide. Et donc, avec mes collègues, on était très perplexes devant le déroulement de cette thérapie, tout en se disant que ça semblait se construire quand même, hein, puisqu'ils s'en tenaient au carton. Et puis, un jour, en recommençant la bagarre, hein, avec les masques, il prend un masque pour lui, un masque blanc, et puis il m'en donne un, mais alors vraiment affreux, de monstre avec des dents qui sortent, vert, enfin c'est vraiment le type absolument de monstre, et il m'attaque. Ça s'est passé sur deux séances, je ne vais pas développer toutes les séances à la suite, mais à la fin de la deuxième séance, disons qu'il avait commencé ce jeu, il l'a arrêté parce que c'était trop fort pour lui, un jeu qu'il allait donner dans son entier à la séance d'après, hein. Mais il le sentait venir et à un moment il l'a arrêté. Et la séance d'après, il a repris là où il en était, c'est-à-dire tu es un monstre. Et là, il s'est adressé à moi directement en disant tu es un monstre, tu m'as trahi. Et moi, je lui pose toujours une question dans ce qu'il dit pour qu'il aille un petit peu plus loin. Hein. Et vers la fin de cette séance, avec la pointe de son manche à balai, il l'a passé sous mon masque et d'un seul coup, il l'a enlevé en disant « Ah, je savais bien que tu étais ma mère ». Et cette phrase m'a, je dirais, assez bouleversée, parce que même si je m'étais dit « Tiens, c'est peut-être le personnage maternel, archaïque, qui est visé », le fait qu'il le dise comme ça, avec cette clarté, cette violence et sur un ton de tragédie antique, c'était assez bouleversant. Et il ajoute « Oui, tu m'as trahi ». Alors moi, je fais l'étonné, je t'ai trahi, qu'est-ce que c'est ? Il dit « Tu m'as trahi, tu as tué mon père ». Et c'était donc quelque chose comme une vengeance, d'après lui. Alors, ça, c'était à peu près la fin de cette thérapie. Après, il a montré dans les séances suivantes qu'il était prêt à passer à un Œdipe, c'est-à-dire à se mettre à séduire le personnage maternel qu'il avait de cette façon-là précisé. Hein. Elle était passée d'une espèce de d'entité monstre asexuée, inconnue, à une mère. Hein. C'est ma mère qui est là. Et donc, il s'est mis à essayer une séduction, mais pas la même séduction qu'il avait au début, qui était complètement, pour lui, c'était dans la foulée de l'archaïque. C'était vraiment essayer d'avoir son accord, enfin, de lui plaire, mais au sens directement sexuel, comme ça avait été au début, quoi. Donc il entrait dans une vraie relation. Bon, c'est à ce moment-là qu'il a été déplacé de l'institution, je ne l'ai donc pas revu. Ça avait été donc juste deux séances qui m'avaient donné l'impression qu'il pouvait commencer à construire quelque chose du côté de l'Œdipe. Et il a quitté l'institution. Bon, depuis, je l'ai revu, puisque pour faire état de cette thérapie, dans mon livre, je lui ai quand même demandé l'autorisation, je lui en ai parlé. Et il a 17 ans maintenant et il mesure 1m72, quoi, ce qui est relativement. Alors, je pense que ce qu'on appelle nanisme affectif, c'est quelque part une agressivité retenue parce que d'autres enfants nous ont un petit peu donné l'explication de ça. C'est un petit peu comme s'il se mettait des freins. Un enfant nous avait fait comme ça un dessin d'une fusée qui était aussi diagnostic de nanisme affectif. Ils avaient dessiné comme ça une fusée qui était retenue au sol par de gros filins très très fort attachés, et la fusée pouvait pas partir se planter dans la lune, quoi. Bon, alors vous savez bien qu'il y a pour tout ça des explications sexuelles, de figuration sexuelle, mais ce à quoi on a été amené avec mon équipe là, ça a été de repérer ce qui était en amont de ces figurations sexuelles, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes représentations, parce que faire un trou dans un carton avec un épieu piquant, pointu, ça peut être effectivement interprété, comme le faisait Mélanie Klein d'ailleurs, du côté du sexuel et de l'Œdipe. Et on avait essayé ces explications-là, enfin ces interprétations-là avec ces enfants, et on avait vraiment l'impression que ça ne leur parlait absolument pas. C'est pour ça qu'on les a laissés développer leur propre cheminement, quoi. Alors, ce qui est tout à fait, ce qui pour nous a été à retenir, c'était cette importance du trou, du vide, du faire trou, et où au fond on avait l'impression que cet enfant voulait mettre un espace entre lui-même et sa représentation imaginaire qui s'est construite petit à petit. Hein. Au fond, ce qu'il avait au départ, ce qu'il ressentait au départ, c'était de la violence pure. Une violence, un chaos, quand il faisait tout tomber, rien n'avait de sens pour lui, aucun des petits objets, des figurines ne lui parlait, hein. Il était dans la destruction, le chaos, il ne pouvait rien organiser au départ, c'était la violence d'abord. Et on avait l'impression qu'il voulait tracer un chemin là-dedans, et au fond, quand il en est arrivé au carton, la représentation qu'il avait, c'est qu'il faut faire un trou. Il faut être au bord d'un trou, hein, aussi. Quand il se mettait en haut de l'escalier, prêt à se jeter dans le vide comme ça, c'était ce vide-là, qu'est-ce que c'est ? Alors, en réfléchissant après coup, hein, on a fini par se dire que ce vide, en fait, c'était le vide qui est inhérent à la séparation. C'est-à-dire qu'au moment de se séparer de tout l'archaïque qui représentait, qui ne représentait pas d'ailleurs, il sentait qu'il y avait quelque chose de violent à faire, comme une naissance. Hein ? La naissance, c'est quelque chose de violent, hein, comme première séparation. Et lui, il sentait ça et nous le représentait en montrant « je suis au bord du vide ». Qu'est-ce que je vais faire de ce bord du vide ? Bon, alors, avec notre attente, il a construit cette représentation théâtrale, hein, de mise en scène de meurtre de la mer. Donc, une construction, petit à petit, à travers une représentation théâtrale, d'une imaginarisation, mise en image de ce que c'était pour lui, se faire trou. Hein. Faire trou, c'était se débarrasser du masque maternel archaïque, on va dire. Vous m'arrêtez, hein, si vous voulez des explications entre deux. Et donc, il était là, dans ce bord, et ce qui l'a aidé à traverser ce vide, ça a été sa construction. Et je dirais un petit peu comme une passerelle. Il a transformé la violence de cette séparation, le vide et tout, il a transformé ça en une histoire, il l'a symbolisé, on dit, hein, en une histoire qui, pour lui, ensuite lui a permis, d'atterrir sur l'autre bord et de s'embarquer dans une construction oedipienne, donc après, de pouvoir aller à l'école etc. Hein, tout ce qui vient avec la construction oedipienne. Apparemment, c'est pas moi qui l'ai suivi, mais... Donc, on a trouvé ça assez intéressant. Et en fait, maintenant, alors, j'ai aussi un cabinet en libéral où je reçois des adultes et des adolescents, et où, je dirais en résonance avec ce qui se passait dans la thérapie des enfants, là, je pouvais entendre des choses dans les analyses d'adultes que je n'entendais pas tellement avant. C'est-à-dire ne pas faire l'économie de ce passage par le vide et par le vertige. Et très souvent, ou peut-être avant, j'avais peut-être plutôt tendance à embrayer tout de suite sur oui, ce qui était de l'ordre de l'Œdipe, donc de l'identité sexuelle, de la construction de l'identité de chacun, ce qui est vraiment le départ dans ce que nous a montré l'enfant. Mais vraiment, quand il était fille ou garçon, d'ailleurs, dans ces jeux, hein, il n'était pas du tout sexué. Et ça n'est qu'à partir de son intégration dans la voie œdipienne qu'il a pu commencer à décider, je suis un garçon. Et donc, oui, je me disais que c'était important de ne pas faire l'économie de ce passage par le vide. Et donc... d'accompagner et la personne. Quoi. Et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait sur ce bord, il était quand même souvent question de vertige. Et notamment, j'avais une patiente qui me disait tout le temps, j'ai encore eu mes vertiges. Or, elle était dans un processus de séparation avec sa mère. C'est une patiente qui avait 40 ans, était avocate. Elle était dans un processus de séparation qui n'était pas terminé, j'allais dire, qui n'est jamais terminé, qui n'était jamais terminé pour elle, et elle était perpétuellement avec l'impression d'avoir le vertige, d'aller, de tomber dans la rue. Bon, ça l'empêchait pas de vivre, mais ça me paraissait très important. Je lui ai donc interrogé sur ce vertige, et elle m'a dit que quand elle ne ressentait pas ce vertige, elle le provoquait. Elle le provoquait d'une façon très particulière à elle, c'est-à-dire qu'elle avait certains mots, elle avait repéré certains mots qui déclenchaient le vertige. Et quand elle avait, je dirais, envie de ressentir les sensations du vertige, elle s'arrangeait pour le faire prononcer par son interlocuteur. Parce que chez elle, c'était des mots tabous qu'elle ne prononçait jamais. Je ne me souviens plus exactement, il y avait souffrance, il y avait... Non, je ne sais plus, de toute façon, ce serait identifiant pour elle, donc je ne les répéterai pas, c'est pour ça sans doute que je les ai oubliés. Mais c'était très intéressant de découvrir qu'il y avait une certaine culture du vertige qui empêchait finalement, ou qui accompagnait cette non-séparation. Ce perpétuel, je suis face à ce vide que serait la séparation, et que ce vide que couvrirait la séparation, je suis face à ce vide, c'est un petit peu comme ben, je reste au bord, là, je vais pas m'y aventurer, je vais pas y tomber non plus. Bon, pour d'autres personnes, j'ai compris. Comme ça, un certain nombre de réflexes d'agrippement, s'agripper à ce qui était avant, ne même rien vouloir entendre d'une traversée quelconque de ce vide. Et en parlant aussi avec une jeune fille qui était très boulimique de façon tellement insupportable qu'elle a fini par se suicider, d'ailleurs. C'était trop insupportable pour elle. Mais le vertige était pour elle complètement central. Se donner complètement à la nourriture, et puis ensuite s'en débarrasser, créer ce vide à l'intérieur d'elle... Le retrouver à l'intérieur d'elle était quelque chose qui l'a fascinée. Et bon, on retrouve encore la même chose dans la toxicomanie, par exemple, les drogues. Et puis, de fil en aiguille, au fond, on peut considérer tout un tas de conduites et d'activités humaines comme étant une culture du vertige, en fait. Hein, la musique pop, par exemple. Toutes les religions, dans leur ensemble, ont exploité, d'une certaine façon... le vertige comme étant l'une des entrées du sacré, d'arriver à contacter ou à être pris de vertige devant la divinité, la représentation de la divinité. Enfin bon, on s'est aperçu que le vertige était quand même quelque chose de l'humain qui pouvait être un moment de la construction. Et au fond, pour certaines personnes, pouvait être satisfaisant. Si vous entendez, si vous écoutez par exemple les alpinistes parler du vertige, et au fond de la rencontre qu'ils font là avec l'extrême, de leur confrontation un petit peu à la mort, enfin, de la prise de risque. Tout ça est tout à fait étonnant. Alors, bon, est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, la personne ne va pas plus loin ? Pourquoi irait-elle plus loin si ça la satisfait ? Plus loin sur ce chemin de la construction identitaire oedipienne et, elle se satisfait de cette exploration du vertige et de toutes ses possibilités. Bon, y a des formes de vertige qui sont destructrices pour l'individu, hein, mais encore, c'est notre façon à nous de le voir. Je ne suis pas sûre que cette jeune femme qui s'est suicidée... bien sûr qu'elle a souffert énormément de sa boulimie, mais elle trouvait dans ce qui se passait là pour elle une certaine, une jouissance même très forte. Et le moment de son suicide a été quelque chose d'organisé et d'un acte de liberté qui donne le vertige, quoi, très exactement. Bon, dans le cas où... le vertige ne satisfait pas l'individu, il va chercher à aller ailleurs, hein, ou bien ne va peut-être même pas explorer cette sensation de vertige, parce que au moment où il l'aura ressenti pour la première fois, ça ne l'aura pas convaincu comme sensation suffisamment porteuse pour lui, quoi. Alors bon, cette quand on parle de séparation, en général, on a tendance à voir ça du côté dramatique, négatif. On parle de séparation, on a tout de suite l'impression d'être dans le drame. Alors que, en fait, la séparation, c'est une ouverture. Et une ouverture qui ouvre aussi sur des tas d'autres choses possibles. Hein, quelle que soit la séparation, hein, qu'on parle de la naissance, qu'on parle du sevrage ou qu'on parle d'une séparation avec la mère, les parents, l'enfance, à l'adolescence, ou qu'on parle de séparation par rapport à quelque chose qu'on a construit dans sa vie et qui finalement devient aussi étouffant que... bon, une passion, par exemple, ou une relation qui s'enlise, ou des choses comme ça. Le courage de se séparer est quelquefois pas du tout du côté du drame, même s'il y a toujours cette douleur qui revient des premières séparations, et puis la nostalgie de ce qu'on abandonne en partant. Et au fond, pourquoi on est comme ça ? Les humains, pourquoi ? Pour construire quelque chose, il faut abandonner autre chose et en plus en souffrir, avoir de l'angoisse à se dire mais qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté ? Et ben je pense que c'est quand même quelque chose qui est quand même complètement lié à notre condition, c'est-à-dire que de cette séparation que vivent aussi les animaux, nous, nous avons conscience. Et nous en avons conscience, et pour en triompher, nous disposons de tout le symbolique, c'est-à-dire de la capacité d'en parler, d'utiliser toutes nos ressources langagières pour circonscrire ce vide que ça ouvre. En fait, cette disposition tient au fait que dans l'évolution humaine, enfin dans l'évolution de l'espèce qui a mené à notre humanité, l'instinct a disparu. Et nous nous trouvons non programmés, et cette non-programmation fait le vide. Au moment de la naissance, si vous voulez, on arrive là, tout démuni, ça il y a longtemps qu'on le sait, mais démuni parce que on n'a pas la programmation pour nous guider. Et alors on est là devant un vide dont on se dit, mais il y a bien quelque chose qui devrait être là. Hein. Il n'y a pas d'instinct, il n'y a pas de programmation. Il y a quelque chose qui devrait être là et qu'on ne voit pas. Enfin, dont on a déjà quand même un peu le maniement, même nourrisson, même avant la naissance. Et ce quelque chose qui est là sans être là, dans cette absence, c'est le symbolique. C'est en réalité ce qui fait le fond du père. Hein? C'est parce qu'il y a cette absence d'instinct que l'humain parle, se débrouille comme ça avec le symbolique. Et c'est ça qui le tire en avant vers son humanité, vers la mise en place de sa disposition particulière qui est l'humanité. Et pour moi, enfin pour nous, c'est le lieu du Père. Et donc, quand on se trouve en haut d'une montagne et qu'on est pris de vertige et qu'on voit le fond, on appelle ça l'appel du vide. Hein? Mais l'appel du vide, c'est l'appel du symbolique qui dit, voilà, tu te trouves là dans la séparation, maintenant, tu vas en faire quoi? Et je pense que notre attitude, puisque nous étions des pauvres psychothérapeutes perdus devant nos enfants violents, notre attitude à nous, là, dans le vide intérieur qu'on ressentait, qu'on n'avait pas les moyens là d'intervenir avec des réponses et puis finalement de tout fermer, hein, tout coudre la séparation. On n'avait pas les moyens, donc on ouvrait à l'enfant ce vide interrogateur, parce que même en étant dans le vide, on savait que le symbolique était là et qu'il allait, le symbolique, faire surgir quelque chose dans cette parole de l'enfant et finalement dans la nôtre, dans la parole commune qu'on allait trouver ensemble. Et je pense que l'exemple que je vous ai donné en est une illustration qui nous a vraiment médusés au début et passionnés ensuite et excités à la recherche après.
Est-ce que vous pouvez expliquer la programmation?
Oui, la programmation, c'est celle du monde animal, hein. C'est tout ce que l'instinct a préprogrammé chez un individu, par exemple abeille, au moment où il naît, a exactement son programme de vie. Hein, si c'est une ouvrière, elle devra construire des cellules où seront pondus et entretenus les œufs de la reine. Si c'est une combattante, elle ira défendre La ruche, si c'est une ventilante, elle passera son temps à ventiler. Donc, dans le monde des animaux, apparemment, et même certainement, c'est l'instinct qui les guide en premier chef, même si certains sont capables de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Chez l'animal humain, la programmation est réduite à presque rien. Je dis ça parce que je voyais un nourrisson la dernière fois qui, justement, a pris de panique, sans doute, devant le vide de l'existence, un mois et demi. Hein. Pris de panique devant le vide de l'existence, ne pouvait pas desserrer ses poings. Il était tout le temps comme si ses mains étaient des petites griffes qui allaient se raccrocher. Ben ça renvoie un peu à l'instinct d'agrippement des petits singes qui s'agrippent à la mer. Dès qu'ils sentent une menace, ils courent vers la mer, ils s'agrippent. Et je me disais, en voyant ce bébé, mais est-ce qu'elle n'est pas là, cette petite fille, en train de s'agripper comme ça au bord de ce qu'elle a connu avant et qu'elle cherche. On voit bien les enfants de 0 à 2 mois, comment ils sont passionnés déjà, ils écoutent, ils essayent de regarder, puis on voit qu'ils se fatiguent tout de suite, et puis ils recommencent. Et ils sont en fait en train d'essayer de construire, pas d'essayer, ils sont en train de construire leur mode de résistance, leur mode de tissage au-dessus du vide, hein, pour que ce vide devienne vivable. Ils sont en train de construire avec ce qu'apportent les parents, avec ce qu'apporte le milieu, de tisser comme ça tout un réseau de plaisir, de choses satisfaisantes, d'intérêt, etc. Ils le réclament d'ailleurs, ils crient quand ça ne va pas. Et des fois même, on sent bien qu'ils pleurent parce qu'ils en ont marre de chercher, ils sont en train de chercher. Ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de vraiment satisfaisant. Donc, ils s'endorment parce qu'ils sont crevés. Ils se réveillent, ils recommencent tout ce travail de tissage qu'ils font avec les gens qui sont autour, le milieu. Et au fond, le sevrage un petit peu plus tard. Vous posiez une question ?
Je voulais juste ajouter quelque chose. Ah oui, pardon. Bon, excusez-moi. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même programmés pour le langage et que nous sommes programmés également pour concevoir ce vide et que sans ce vide justement on aboutit à la psychose. Alors ce vide, moi je l'appellerais plutôt manque, et ce manque il est nécessaire. Évidemment on cherche tous à le combler, personne n'y parvient, le psychotique y parvient dans le symbolique, dans l'irréel. Mais néanmoins, ce vide, il est absolument nécessaire. Mmh. Et je pense que si le nourrisson, effectivement, a perdu son instinct, je ne crois pas que ce soit spécialement par rapport à une évolution, mais je pense qu'il est frappé par le langage. Hein. Oui, il est frappé par le langage, et que ce langage fait que, justement, il perd son instinct. Tout d'un coup, finalement, ça prend sens pour lui. Et ce sens, qu'est-ce que c'est ? Et c'est là qu'il doit essayer de se construire. Il se construira d'abord par un leurre. Et après, il trouvera justement... On essaiera justement de comprendre ce sens de son existence. Mais le vide est néanmoins important lorsqu'il est envahissant.
Ben oui. C'est bien ce que je dis, il me semble.
Oui, mais il est nécessaire. Bon, j'avais pas entendu ça, pardonnez-moi. Il n'est pas à éviter à tout point, justement, lorsque vous parlez de...
Non, il n'est pas à éviter, il n'est surtout pas à combler, à résoudre. Voilà. C'est bien ce que disait l'enfant en disant « Tu m'as trahi, tu as tué mon père, tu m'as trahi, tu as bouché le vide. Mm-hmm. Il faut que je le refasse, ce vide, mm-hmm. hein, quand il refait les trous. » Donc, quand je dis que le nourrisson cherche très activement à construire quelque chose, c'est quelque chose qui va rendre ce vide vivable, mais qui ne va pas du tout l'exclure, parce que même dans ces constructions, même là quand je vous parle, Je veux dire, s'il n'y avait pas un vide entre les mots, vous ne comprendriez rien à ce que je raconte. Hein. Donc le vide, c'est vraiment quelque chose avec quoi il faut composer. Ce que vous dites, c'est très juste. Si le psychotique, lui, il va rester à ce bord du vide où il va être dans l'angoisse perpétuelle de ce vide parce qu'il n'arrive pas à construire quelque chose dans le relationnel qui va lui tisser des passerelles et des choses comme ça. Ce que je crois, enfin, je peut-être pas assez clairement expliqué, l'importance de ce vide, et pour moi, il n'est absolument pas tragique. Il est nécessaire, même si il y a des moments où c'est une souffrance de se trouver devant, parce que ce qu'on avait avant, c'était pas mal, et ce qu'on a après, on ne sait pas trop ce que ça va être. Mais on ne peut pas vivre rien que le vide et que dans le vide. Donc, le nourrisson s'emploie à construire ce cocon. Et au fond, au moment du sevrage, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce cocon, il est devenu trop petit. Hein, comme le ventre maternel avant la naissance était devenu trop petit aussi. Il n'y avait plus assez de place. Et donc, là aussi, il va devoir faire un trou dans ce cocon. Il va devoir, et c'est un petit peu ce que fait cet enfant quand il se retourne et voit tout d'un coup qu'il y avait un personnage là qui l'empêchait d'avancer, c'était bon, ce qu'il appelle sa mère. Mais là, pour l'enfant qui, au moment du sevrage, il va se rendre compte, il est obligé de se rendre compte que ce cocon qu'il a construit, dont on dit c'est la mère archaïque, c'est, oui, c'est le maternel archaïque, qu'à partir d'un certain moment, s'il ne fait que profiter de ça, il n'avance plus. Et donc, il lui faut rompre avec ce premier cocon et puis affronter la suite, hein. En passant, c'est toujours en passant, par le vertige, le vide. Oui.
Oui, je voudrais poser une question sur le vertige, pour éventuellement approfondir un peu cette notion. Est-ce qu'on sait ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau du vertige? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on perd connaissance? Qu'est-ce qui fait qu'on perd l'équilibre, qu'on tombe? Est-ce qu'on sait ce qui se passe au niveau psychologique? Qu'est-ce qui fait que quelque chose, un événement, va déclencher un vertige chez une personne? Et enfin, c'est une question donc en trois parties. Et enfin, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, il y a une recherche du vertige et que chez d'autres, il y a une peur atroce du vertige? En même temps, on peut voir que cette notion du vertige est utilisée dans plusieurs de façons très différentes. Par exemple, vous avez parlé d'un accès à la divinité. Il y a cette avocate qui recherchait justement le vertige, alors que d'autres essayent d'en sortir absolument. Donc, oui, voilà. Est-ce que et puis d'ailleurs, il a évolué, parce que par exemple, au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge, on voyait bien que cette notion de vertige était très présente chez les femmes qui, dès que la situation était difficile, perdaient connaissance, ou il ne s'agissait pas de comédie apparemment, c'était réel. Donc qu'est-ce qui fait que cette notion de vertige est très proche des hommes? Il y a soit une recherche, une attirance, soit une peur très forte. Mais qu'est-ce qui fait que ça évolue? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan physiologique, peut-être au niveau du cerveau, et sur le plan psychologique?
Alors, bon, je ne suis pas spécialiste du vertige du tout, hein, et en tous les cas, sur le plan physiologique, c'est un petit peu, c'est même pas du tout ma partie. Je pense quand même qu'il y a un déclenchement hormonal qui vient amener des modifications physiologiques et qui amène cette impression de tourner, quoi. Les hormones étant elles-mêmes dépendante de la conscience que le sujet a de ce qui se passe dans son environnement à un moment donné. Hein. Donc devant le vide, ça peut effectivement déclencher, la vue du vide peut déclencher ce système hormonal qui produit la modification physiologique. Mais bon, c'est tout à fait profane ce que je vous dis là. Bon, je réponds à la suite.
D'accord.
Par rapport à la question des femmes, vous dites, elles, dès qu'elles se trouvaient devant une difficulté, elles s'évanouissaient. Oui, c'est tout à fait intéressant, parce que la difficulté, c'était quelque chose qu'elles souhaitaient et que probablement la culture environnante, l'idée de la femme à ce moment-là, n'admettait pas. Donc, pour faire valoir leur idée, elles auraient dû se séparer de la communauté culturelle, dire « moi, je ne suis pas une femme comme ça, je veux vous dire que ça ». Et à ce moment-là, elles créent de la séparation. Hein, et elles se trouvent devant le vide. Quand on doit s'affirmer en sortant d'une communauté, comme ici, quelqu'un prend la parole, c'est un moment où il s'affirme et où, forcément, il y a un petit moment de trac pour certains. C'est du vertige en petit, ça. Hein, il y avait une autre question qui était... Non, j'ai pas répondu à tout.
Certains sont attirés par
le même. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, je pense qu'il y a une question de l'expérience qui est faite par le nourrisson, le sujet humain, très précocement, l'expérience de ce tournis devant quelque chose qu'il dépasse. Hein. Et suivant que l'ensemble des sensations qu'il ressent là lui apporte quelque chose est satisfaisant, ou suivant que ça ne l'est pas, il va chercher à retrouver cette sensation. Et au fur et à mesure des moments où il va la croiser dans sa vie, il va retenir ces situations dans lesquelles il ressent du vertige. Et il va cultiver plutôt celle-là. Hein, de la même façon, vous avez des enfants, par exemple un enfant battu, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'intensité de ce qu'il ressent dans le moment où il est battu peut lui faire rechercher de continuer à être battu. Hein, donc je pense que pour le vertige, ça fonctionne un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que la sensation est investie à un moment. Après tout, c'est délicieux d'avoir le tournis au point de s'évanouir. Et c'est la paix, le calme. Le sujet n'est plus là. La situation peut continuer à être difficile, il n'y est plus. Il est tombé dans les pommes, c'est... Voilà. Voilà, je ne sais pas si...
Une dernière question, parce qu'il nous reste une minute et demie.
Les vertiges qu'on retrouve systématiquement dans toutes les phobies, les agoraphobies, les claustrophobies, les phobies d'hôpital, etc., est-ce qu'elles ne seraient pas plutôt une fuite? Vous dites que le vertige ou la séparation, c'est essayer d'aller vers l'avant. Mais là, les vertiges ne seraient pas une fuite, justement, par peur d'aller vers l'avant, par peur de faire face aux choses.
Oui, c'est-à-dire par peur de traverser le vide. Donc, on reste au bord et on est pris de vertige. Bon, ça, c'est une des versions. Je crois que la psychologie du vertige, ce serait des livres et des livres entiers, hein. Il y a des tas et des tas d'ouvertures qui partent du vertige. Des ouvertures, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on dit pathologiques, parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Peut-être que le vertige de la phobie ne débouche pas sur quelque chose d'autre que lui-même à ce moment-là. Mais il y a des vertiges qui mènent à la mystique, des vertiges qui mènent à la musique, des vertiges qui mènent à la danse. Il y a les soufis, par exemple, je crois que c'est les soufis qui tournent sur eux-mêmes. Les enfants à 2 ans adorent qu'on les prenne par un pied, une main et qu'on les fasse tourner à toute vitesse. Ils aiment bien aussi tourner sur eux-mêmes jusqu'à que tout tourne autour d'eux. Et là, c'est vraiment ce sont des conduites de maîtriser le vertige. Hein, c'est il y a du vertige dans toute séparation, il y a du vertige là au bord du vide. Et ben moi, je vais maîtriser le vertige. Le funambule, le sport de l'extrême, enfin celui qui grimpe à peine attaché sans chaussures, qui est sûr de ne pas tomber, il ne va pas tomber. C'est une maîtrise du vertige à ce moment-là. Enfin, il y aurait des développements absolument d'une richesse extraordinaire si on part de ce point-là dans la séparation. Bon, après, il y a l'autre versant qui est, on continue du côté de la symbolisation et on met les choses en forme de théâtre, de discours, d'Oedipe, de construction culturelle, etc. Voilà. Bon, je m'arrête là, donc.
Merci, madame.